c'est l'heure maintenant de nous intéresser, comme tous les lundis, aux conversations avec Daniel Habert. Et dans ces conversations de cette semaine, nous allons revenir sur la guerre des 12 jours. Eh oui, on va revenir sur cette guerre des 12 jours et le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, mais pas que sur ce dossier-là que nous allons nous pencher. Nous allons aussi évoquer la situation à Gaza. Daniel Habert s'exprime comme d'habitude au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin pour nos traditionnelles conversations. Alors Daniel, dans la nuit de lundi à mardi, un cessez-le-feu a été annoncé par le président américain Donald Trump. Un cessez-le-feu qui a donc mis fin à cette guerre des 12 jours. Comment analysez-vous la fin de cette guerre et les enjeux de la fin de cette guerre?
Alors un cessez-le-feu, c'est pas la fin d'une guerre. Je pense que ce cessez-le-feu va durer. Duger simplement parce que les Iraniens n'ont pas le choix. Ils ont vraiment été très touchés. Je pense que quand on aura du recul sur tout ce qui s'est passé, c'est pas sûr qu'on garde l'expression guerre de 12 jours parce que c'était pas une guerre en elle-même. C'est cet épisode qui est du 13 au 24 juin, c'était le sommet d'une ascension guerrière qui a commencé le 7 octobre et cet octobre, c'est la déclaration de la guerre, et alors plus tard on l'appellera peut-être la première guerre d'Iran. Israël a subi trois guerres arabes, 48, 67, 73, et là elle est entrée dans un processus de guerre avec l'Iran. C'est la première, il y en aura peut-être d'autres. Beaucoup de gens imaginent qu'il y en aura d'autres. Et donc, cet épisode de 2 jours, c'est ce vers quoi tendait Israël dès le 7 octobre. 7 octobre, Israël a très bien analysé la situation, à savoir qu'effectivement, c'est le Hamas qui a fait tout ça, mais que derrière, il y avait l'ingénieur iranien et il fallait tout de suite dévoiler que c'était bien l'Iran qui était derrière. Ça a été fait dès le mois d'avril de l'année dernière, de 2024, avec l'assassinat ciblé des généraux à Damas, et puis ça n'a jamais cessé. Et là, c'est la fin. Et donc, c'est une victoire sans conteste d'Israël. Victoire parce qu'elle a, je pense, causé des dégâts majeurs et aussi parce qu'elle a réussi à impliquer intelligemment les États-Unis qui ont joué très fin en concentrant leur effort sur un bombardement massif, en faisant preuve, une démonstration de force qui valait pour l'Iran, mais qui valait aussi pour les Russes et pour les Chinois. Tout le monde l'a relevé. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Israël est dans une situation qu'on pourrait dire d'une part que ses ennemis ne sont plus les ennemis arabes. C'est les Perses et que les Arabes sont au contraire à ses côtés. Israël a totalement retrouvé sa crédibilité, sa capacité de dissuasion, notamment grâce à cette organisation dont on a parlé la semaine dernière, le Mossad, et que donc malheureusement Israël a perdu la guerre médiatique, celle qui utilise la guerre de Gaza pour parler de génocide, de famine, et là malheureusement ça revient tout de suite dès qu'on a arrêté les opérations vers l'Iran, immédiatement, la question de Gaza est nous est revenue en pleine figure.
Oui, justement, comment se présente aujourd'hui la situation à Gaza?
Bah écoutez, la situation de Gaza, on retrouve une situation qui était celle d'avant le 13 juin, à savoir qu'Israël est en train de faire le ménage à l'intérieur du territoire. Les chiffres, on en a quelques-uns du chef d'état-major, c'est qu'Israël contrôle 60% du territoire, mais ce qui veut dire en creux que le Hamas en contrôle encore 40%. Donc quand on parle d'un Hamas affaibli et quand on dit on peut s'arrêter maintenant parce que le Hamas est suffisamment affaibli, c'est pas tout à fait vrai. Le Hamas existe encore, il a recruté, il occupe une partie du territoire, c'est avec lui qu'il faut négocier. Et au fond, tout tourne autour d'une seule idée, c'est est-ce qu'on est prêt en Israël et avec ses alliés à arrêter la guerre tout de suite à Gaza, si le prix à payer pour ça, c'est de laisser le Hamas à Gaza. Et je trouve d'ailleurs que quand vous écoutez les commentaires, ça ne vient pas, c'est pas assez clair. On a l'impression que c'est juste un échange d'otages contre prisonniers. Pas du tout. La clé de tout, c'est que le Hamas veut rester une partie prenante à tout ce qui va se passer après, et que en réalité, du point de vue israélien, rien ne peut avancer tant que le Hamas existe et tant que le Hamas surtout est à Gaza. Et donc, si demain il y a une rencontre entre Netanyahou et Trump, ça sera autour de cette question, c'est quel est le risque de laisser le Hamas à Gaza. Et je pense que le risque, c'est de rendre impossible toute la suite des opérations. Et donc, c'est par stratégie que Netanyahou poursuit jusqu'au bout l'élimination de Gaza, du Hamas à Gaza, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Partir maintenant, récupérer les otages, mais laisser le Hamas à Gaza, c'est offrir au fond au Gaza une victoire tellement forte que le Hamas va devenir le héros de tous les Palestiniens et de tous les musulmans du monde. Et comme l'ennemi d'Israël et de l'Occident, c'est pas seulement l'Iran, c'est pas seulement les terroristes palestiniens, c'est tout le mouvement islamiste. Le mouvement islamiste sera terriblement renforcé si sa pointe avancée, le Hamas, qui est le bras armé des frères musulmans, qui est la plus grande organisation islamiste du monde, qui a un projet mondial d'islamisation du monde, si le Hamas sort renforcé. Donc je crois qu'il faut avoir ça en tête et écoutez bien les commentaires qu'on fait dans les radios, les télévisions. On n'est pas assez clair sur le risque qu'on prend à laisser le Hamas survivre à Gaza, parce que dès que Tsahal se retirerait de Gaza, vous verriez immédiatement le Hamas reprendre en main toute l'organisation du territoire et rendre au fond toute la suite très 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 difficile, d'où ces bagarres autour de la distribution de l'aide humanitaire. C'est vrai qu'elle entraîne un certain nombre de chaos. Il faudra quand même éclaircir le point de savoir si vraiment Israël tire volontairement sur des civils qui viennent chercher à manger, alors que c'est Israël elle-même qui organise cette distribution. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut chercher l'erreur ici. Et en tout cas, ça veut dire que chaque fois qu'on parle de Gaza, c'est pour Israël en fait une défaite médiatique qui lui tombe dessus, plus qu'une victoire, une défaite militaire. Donc voilà, on est dans cette forme d'impasse dont on a déjà parlé.
Justement, Daniel, vous parlez d'impasse, comment en sortir?
Écoutez, il semble qu'il se prépare quelque chose. On entend de plusieurs côtés l'idée que Trump est en train de lancer un certain nombre de négociations assez élargies et qu'il se pourrait très bien que la semaine prochaine, lorsqu'on se parlera ici à conversation, on parle d'une solution à la question de Gaza. Et quelle est cette solution? Je pense qu'on la connaît. Elle tourne autour de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Hamas refuse de se désarmer en rendant les armes aux Israéliens, peut-être qu'une voie de sortie, c'est de dire au Hamas, ben vous allez rendre vos armes non pas aux Israéliens, mais à vos cousins arabes, qui sont les pays de la Ligue arabe, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, hein, les trois pays les plus impliqués. Et ensuite, bah, il faudra mettre au point un système qui permet de ce qu'on appelait le jour d'après, hein, comment gère-t-on Gaza à la fois administrativement et de façon humanitaire et aussi militairement, de façon sécuritaire, pour que le Hamas ne revienne pas ou que d'autres ne reviennent pas. Parce qu'aujourd'hui, Gaza, c'est ouvert à tous les vents de tous les terrorismes possibles. Donc, il doit se préparer quelque chose autour de, au fond, le mot peut-être le plus clair, c'est les accords d'Abraham. Ça a été la grande victoire de Trump 1 en 2020 d'élargir la relation entre Israël et ses voisins. Il faut compléter tout ça. Il faut donc que l'Arabie Saoudite et Oman entrent dans les accords d'Abraham. Il faut aussi que l'Égypte et la Jordanie, qui n'y sont pas entrées, qui ont fait la paix, mais qui sont plutôt une paix froide, y rentrent aussi, pour créer un vaste mouvement Et ce vaste mouvement, d'une part, sera une zone économique de prospérité, à l'intérieur de laquelle on va tenter de résoudre la question palestinienne. Je pense que personne n'ira jusqu'à dire État de Palestine parce que les choses ne sont pas mûres, mais ce sera ce que les Arabes saoudiens appellent une perspective. Donc je pense qu'on ira vers ça. Et puis, il reste l'Iran. Pour répondre à la première question qu'on a discutée ce matin à conversation, à savoir que l'Iran va essayer de reconstruire ses instruments d'agression, la bombe, les missiles, le financement des milices. Et donc, il faut opposer à cette puissance iranienne qui est installée, hein, qui ne changera que si on change de régime. Mais je crois qu'on a renoncé pour l'instant à un changement de régime. Ça ne vient pas avec un claquement de doigts. Et donc, il faut mettre face à cette puissance iranienne une autre grande puissance, qui est la puissance de tous les Arabes, toute la Ligue arabe, y compris le Maroc, hein, vous l'avez vu, et d'autres, plus Israël, plus les garanties américaines. Et il est possible donc que Trump, qui au fond est en train de changer un petit peu dans son projet, qui était de se retirer d'un peu partout, n'ait plus envie de laisser la place au Moyen-Orient à d'autres, hein, ça serait aux Russes et aux Chinois, et y compris que l'intérêt de l'Amérique qui veut devenir à nouveau grande, soit de garder ce Moyen-Orient qui est une zone tampon, une zone riche, une zone puissante, une zone de carrefour sous son contrôle en partiel, et elle le ferait à travers cette alliance entre les Arabes et Israël. Voilà ce qui se dessine, et je pense que la semaine prochaine, on en saura, j'espère, un peu plus.
Et on l'espère également. Merci beaucoup, Daniel Habert, d'avoir été avec nous dans Conversation. On se retrouve donc la semaine prochaine.
La semaine prochaine.